Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Émilie Julia.
Gérard de Cortance, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une biographie de l'écrivain Pierre Benoît, parue chez Albin Michel en 2012, 50 ans après la mort de ce dernier en 1962. En cet anniversaire, nous avons donc le plaisir de relire sa vie trépidante. Voyageur, grand écrivain aux nombreuses facettes, il fut élu à l'Académie française en 1931 au fauteuil de Henri de Régnier. Son succès fut immense, on compte pas moins de 47 romans, eux-mêmes terreaux de 15 adaptations cinématographiques. Enfin, véritable phénomène social, Königsmark est le premier roman à intégrer la collection du livre de poche chez Hachette. Entre guerre, carrière de grand reporter ou de fonctionnaire, académie, je vous propose, Gérard de Cortance, de visiter une période qui a peut-être le plus compté pour Pierre Benoît, ne serait-ce pas son enfance qu'il a passée au Maghreb.
C'est absolument ça. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du livre qui est construite, en tout cas, sur cette enfance. Alors, comme vous le dites, il est né en 86. Il est parti en 91 en Tunisie, son père était militaire, donc c'est l'époque du développement des colonies. Donc le père militaire implante des casernes, construit des ports, transforme des mosquées en églises, en Tunisie, en Algérie. Il restera en Tunisie, en Algérie, de 1891 à 1907. Donc c'est-à-dire toute sa petite enfance, l'adolescence, le début de l'âge adulte, il fait son service militaire en Algérie. Et ça a vraiment fabriqué son existence.
Ça va le marquer
Mais totalement. Alors imaginez un petit enfant qui naît à Albi, et il a 5 ans lorsqu'il prend le bateau à Marseille, et qui découvre Tunis, avec cette longue arrivée, ce long chenal, des plantes, un climat, enfin, donc c'est un univers qui est totalement différent de ce à quoi il est habitué chaque jour. Il change de ville, très souvent, au gré des garnisons, et ça crée chez lui d'abord une forme d'instabilité, c'est-à-dire que par la suite, lorsqu'il sera devenu adulte, il n'acquérera une maison et un appartement que très tard, c'est-à-dire en 1947, lorsqu'il se mariera. De 1907 à 1947, il vit dans des chambres d'hôtel, dans des garnis, dans des meublés, dans des cabines de bateau.
Vous voulez dire qu'il a l'esprit nomade, qu'il ne peut pas se poser ?
Totalement. Ça vient de l'enfance. Totalement. Ce désir, alors, comment dire, cette enfance et cette instabilité va créer chez lui un désir de voyage. D'où, lorsqu'il sera plus âgé, homme adulte, ses voyages à travers le monde. C'est-à-dire, il a fait 5 fois le tour du monde entre 1922 et 1954. Il y a un autre élément qui est important, enfin, il y a plein d'éléments qui viennent de l'enfance, hein, vous savez. C'est l'essence même du genre biographique. On suit un auteur dans sa vie pour parler de l'œuvre. Et suivant un auteur, on va parler de son enfance. C'est banal, mais pour moi, je trouve que c'est essentiel, la biographie. Et donc l'enfance. Par exemple, son image de la femme vient de cette enfance. Il ne tombera amoureux que d'actrices, de comédiennes, de danseuses, de chanteuses, donc qui sont des femmes libres, autonomes financièrement, parfois inaccessibles, et toujours, comment dire, très maquillées. C'est un certain type de femme. Or, ce type de femme, il le découvre, il le dit lui-même, petit enfant, les Tunisiennes, les Algériennes, qui mettent un certain parfum, qui se maquillent de certaines façons, qui ont certains habits, certains vêtements, certains voiles de certaines couleurs. Et ça a totalement fasciné le petit garçon. Et au fond, on voit très bien la filiation entre ces femmes un peu inaccessibles, voluptueuses, sensuelles, comme ça. Et après, il aime le même type de femme. Autre chose, peut-être, plus importante, parce que plus philosophique, plus métaphysique, il dit « En Tunisie et en Algérie, j'ai appris la tolérance. » Et pourquoi j'ai appris la tolérance ? Parce que j'ai vu, sous mes yeux, vivre les trois religions monothéistes. Et il dit « Là, j'ai vraiment compris que la valeur essentielle de l'être humain, c'était la tolérance. » C'est très important pour la suite de sa vie, parce que vous savez très bien qu'il a eu quelques problèmes au moment de la guerre 39-45, on l'a accusé de collaboration. Or, je pense que quelqu'un qui, dès l'enfance, défend à ce point la tolérance, et autant marqué par la tolérance, dit que la tolérance est devenue une valeur fondamentale pour lui dans sa vie, ne peut pas être collaborateur. comme quelqu'un qui, comme Pierre Benoît, découvrant Jérusalem en 1922, alors qu'il part là-bas pour écrire un roman anti-anglais. Parce que vous savez qu'à l'époque, le monde est divisé, le monde colonial, en trois grands empires. L'empire français, l'empire anglais, enfin britannique, l'empire allemand. Chacun envoyant ses espions, ses armées, etc. Les Anglais sont en Palestine. Pierre Benoît veut écrire un roman anti-anglais. Il va à Jérusalem et que dit-il ? Je découvre l'âme juive et ma vie en a été bouleversée. On voit mal un collaborateur écrivant ces choses-là. Donc, vous voyez, la tolérance d'un côté, Jérusalem où il découvre l'âme juive, je cite, qui bouleverse sa vie, je crois que ces deux aspects permettent de clore à jamais cette espèce de rumeur imbécile qui aurait fait de lui un collaborateur, d'autant plus que j'ai découvert, et j'ai consacré un certain nombre de pages dans le livre, au fait suivant, c'est qu'il a aussi participé, pas très longtemps, mais participé tout de même, à un mouvement de résistance dans le Périgord. Vous me direz, c'est à la fin de la guerre, ce n'est pas très long, mais sur les 75 personnes qui faisaient partie de son groupe, il y en a 35 qui sont quand même morts sous les balles allemandes, ou plutôt nazis. Donc, c'était pas si simple d'être résistant, même peu de temps et à la fin de la guerre. Donc, vous voyez, toutes ces choses pour dire que c'était important d'écrire cette biographie pour établir la vérité. Et une autre vérité, mais ça, on en parlera sans doute après, une autre vérité qui est celle de l'importance de son œuvre. C'est-à-dire Pierre Benoît est un des grands écrivains français du XXe siècle.
Nous allons y venir juste pour terminer sur la partie de l'enfance, donner quelques axes de réflexion. Les membres de sa famille ne sont pas très tendres avec lui. Est-ce que c'est ce qui influencera également sa vie sur le plan de la séduction ? C'est un grand séducteur, Pierre Benoît. Vous évoquiez les femmes,
oui, mais alors,
il y en a eu quelques-unes.
C'est un grand séducteur, mais c'est quelqu'un qui a une connaissance aussi très grande de l'âme féminine. Et je pense qu'il devait bien s'entendre avec les femmes. C'est-à-dire que les femmes étaient amoureuses de lui. Donc je pense qu'il y a un vrai échange entre les deux. C'est pas ce qu'on appellera aujourd'hui un machiste. Je pense qu'il y a un vrai amour de la femme chez lui. D'ailleurs, ses descriptions de ses personnages féminins sont extraordinaires. Hein. C'est-à-dire que, et c'est très nouveau pour l'époque, ce sont des femmes qui sont libres, qui sont autonomes, qui pourraient presque vivre sans les hommes, en quelque sorte. Hein. Les personnages essentiels, principaux de ses livres, ce sont les femmes. Alors pour revenir à votre question... En fait, il y a plusieurs événements dans cette enfance. Il y a le père militaire, donc c'est une certaine éducation quand même sévère. Il y a la mère très catholique. Le fait qu'il ait des frères et sœurs, et il accepte assez mal la venue de ses frères et sœurs. Il aurait aimé, il le dit à plusieurs reprises, il aurait aimé être seul, être enfant unique, pour ne pas partager, devoir partager l'amour de ses parents. Donc il y a une série d'éléments qui construisent sa personnalité, et c'est quelqu'un, effectivement, son rapport à la lecture, par exemple. La plupart des enfants souhaitent que leurs parents leur racontent des histoires ou leur lisent des livres avant qu'ils n'aillent se coucher. Voilà. Lui dit « Non, ça ne m'intéresse pas, c'est moi qui vais vous raconter des histoires. » C'est assez étonnant quand même. On imagine ce petit garçon disant à ses parents « Non, c'est moi qui vais vous raconter une histoire. »
Il dit vraiment ça ?
Oui. Et ses parents lui disent « Oh, écoutez, au bout d'un moment, mais ça suffit tes histoires, tu nous ennuies. » Enfin, parce que c'était une sorte de moulin à parole, comme ça, qui racontait des histoires. Déjà, c'était une sorte d'écrivain.
Conteur. Hein,
conteur, dès la petite enfance. Et il le dit à plusieurs reprises, au fond, quand il a commencé à publier des livres, à écrire, des articles, des poèmes, des nouvelles ici ou là, ça l'a un peu handicapé. C'est-à-dire, il se disait « Puisque mes parents, enfants, me disait, mais enfin, tu nous ennuies avec tes histoires. Peut-être que mes livres vont ennuyer les lecteurs, au fond. Peut-être que ça va se reproduire. » Et il raconte très bien que lors de ses premières publications, il était un peu en retrait par rapport à tous ses livres, parce qu'il pensait que ça n'allait pas intéresser le public, des lecteurs.
Pierre Benoît, c'est le romancier paradoxal, comme vous dites en sous-titre de votre couverture de livre. Pourquoi un romancier paradoxal ?
Alors, parce que c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Alors, il n'a pas un masque ou deux masques, il en a 36. Mais ces masques lui permettent, à mon sens, de réaliser ce qui est le plus important pour lui, c'est-à-dire l'écriture. Il est comme Hemingway qui disait que l'écriture est une chose sérieuse. Je pense que pour Pierre Benoît, l'écriture était une chose sérieuse. Alors, écrivain paradoxal, par exemple, c'est quelqu'un qui a compris que pour être écrivain, déjà, il ne suffisait pas de n'être qu'écrivain. Il faut être aussi mondain. C'est-à-dire, il faut avoir, au fond, des réseaux d'amitié, il faut être reconnu. Ça passe, oui, par la reconnaissance, tout simplement. Donc, il dirige la Société des gens de lettres. Il est élu à l'Académie française. Il participe à tel ou tel débat, émission, interview, il est tout le temps dans la presse. Il travaille beaucoup avec la radio, par exemple, avec le cinéma. Donc cet aspect comme ça, un peu, on dirait aujourd'hui, médiatique, hein, c'est pas du tout absent de sa personnalité. Donc c'est ça le paradoxe, parce que d'un autre côté, il est capable de s'abstraire totalement du monde. Il y a un côté moine chez lui. D'ailleurs, quand il va en Toura, au monastère d'Antoura, près de Beyrouth, au Liban, ses amis libanais du monastère, les prêtres qui sont là, les moines, ont mis à sa disposition une chambre. Il y va quand il veut, et il peut partir plusieurs années, écrire des livres. Comme il a ce petit hôtel à Saint-Céret, donc dans le Lot, pendant 15 ans, il ira tous les ans, 6 mois par an, dans une petite chambre, qui est plus petite que cette pièce, dans laquelle on enregistre cette émission, une chaise, une table, un lit, pas d'électricité, et il travaille du matin au soir, il écrit tous ces livres-là. Donc il y a vraiment chez lui cette double personnalité. La double personnalité, le paradoxe, on le retrouve aussi dans son œuvre, c'est-à-dire que il est tout à fait capable de décrire, d'ailleurs, par le biais de phrases amples, fluides, il a une très belle langue. Hein. Ça se lit très facilement comme ça, il y a un gros travail.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un auteur populaire ?
Oui, alors attendez, on va y venir.
On en parle après.
Donc, il y a ce côté description très romanesque à la française, c'est-à-dire avec le recours parfois à l'alexandrin, à certains rythmes de la langue. Donc, un véritable amour du pays. Donc, il va décrire la lande, un vol de canards, la mer, des pins, des montagnes, des ruisseaux. Là, il y a des passages magnifiques sur la gastronomie, sur la France profonde. Et d'un autre côté, il voyage beaucoup. Donc, dans tous ses livres, il y a l'extérieur. C'est-à-dire, c'est plus la France. Il va parler du Liban, il va parler de la Syrie, il va parler de Madagascar, il va parler du Japon, il va parler de l'Afrique, il va parler des États-Unis, il va parler de la Tchécoslovaquie, il va parler de la Russie, enfin voilà. Donc, ça aussi, c'est paradoxal. Hein. C'est quelqu'un qui est tout à fait capable de parler du monde et de parler de la France. C'est quelqu'un qui est capable de parler des problèmes politiques, historiques de son temps. Hein, il va interviewer Mussolini, il va interviewer Göring, il va interviewer Kemal Atatürk, qui est en train de fonder la République de Turquie. Donc, un intérêt pour le monde. Il dit lui-même, le rôle d'un écrivain, c'est d'être de son siècle, c'est d'être de son temps. Et en même temps, il est capable d'écrire Mademoiselle de la Ferté, où il y a une sorte de descente dans l'âme humaine et dans l'âme féminine. Il y a un côté Mauriac, Mauroy, très très labyrinthique comme ça, où tout à coup on parle de l'être, du corps, de la pensée. On n'est plus du tout dans les grands voyages, dans les bateaux, dans l'exotisme en fait. Donc c'est quelqu'un qui balance toujours d'un côté et de l'autre. Et alors pour répondre à la question sur l'écrivain populaire, c'est évidemment un grand écrivain populaire. C'est-à-dire qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer le succès des livres de Pierre Benoît. Quand il publie son premier livre, c'est-à-dire Königsmark, c'est juste à la fin de la guerre de 14. Succès immédiat. Quelques mois plus tard, 6-7 mois, il publie en 1919 L'Atlantide. Succès immédiat. Les 43 romans, il en écrit un par an. Le 43e posthume est publié en 62, l'année de sa mort. Comment dire, ses livres sont des grands traversiers du siècle, de son époque, du temps. Et en même temps, à chaque fois, il y a un public qui est là. C'est-à-dire, il y a un succès immédiat pour chaque livre, plusieurs millions d'exemplaires, 35 adaptations cinématographiques. Vous le rappeliez tout à l'heure, le livre de poche en 53 qui démarre avec Königsmark. C'est-à-dire que le succès de cette hypothèse, éditoriale, à savoir est-ce qu'on va réussir en 53 à implanter un type de livre qui ne correspond pas du tout à l'époque. C'est-à-dire que, imaginez, le livre de poche, petit format, un certain papier, vendu très bon marché, un énorme tirage, c'était pas sûr du tout que le projet marche, hein. C'était très 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 novateur. Hein. Eh bien ça marche. Et ça marche pourquoi ? Parce qu'en fait ça commence par Königsmark, 800 000 exemplaires en quelques semaines. Donc on peut imaginer que si le livre de poche n'avait pas commencé par Königsmark, peut-être que le livre de poche n'aurait pas connu un succès aussi important.
Il y a beaucoup de livres dont le titre commence avec la lettre A. Est-ce que vous avez une idée de la signification ?
Alors c'est surtout toutes les héroïnes, donc féminines.
Oui.
Des romans de Pierre Benoît commencent par être A. Alors, il a donné une explication, mais qui, comme toutes les explications qu'il donnait aux journalistes, étaient des explications fausses. Là, on revient au masque, au paradoxe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se protégeait beaucoup. Donc, on lui a tellement posé la question, et pourquoi cette lettre A tout le temps, qu'il a fini par dire, oui, c'est plus facile, c'est la première lettre de l'alphabet, puis voilà. Mais en fait, il n'y a pas d'explication réelle. Vous savez, il y a un côté presque surréaliste dans l'attitude chez Pierre Benoît. Il faut replacer tout ça dans le contexte. C'est quelqu'un qui avait une... Au fond, il y avait une bande de copains. Il y avait Macorland, Morand, Carco, Dorgelès et d'autres. Alors peut-être moins Morand, mais qui passaient leur temps à faire des blagues. C'est l'époque des blagues. Ce sont des écrivains qui écrivent, mais qui ne se prennent pas au sérieux. Ils ne théorisent pas, ils ne pontifient pas. Ils font tous des blagues plus ou moins bonnes, d'ailleurs. L'une d'entre elles a été très reprochée à Benoît Dorgelès. Ça se passe en 1937. Il décide d'envoyer un télégramme à Hitler. Le télégramme est le suivant. « Chancelier, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. » On nommait toujours de citer la deuxième partie de télégramme. « Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire en espérant que ce sera le dernier. » Donc c'est pas du tout, vous voyez, c'est pas pro-hitlérien, quoi, n'est-ce pas, comme on l'a écrit par la suite. C'est tout le contraire. Lorsqu'il était fonctionnaire au ministère des Beaux-Arts, il organisait des courses de tortues dans les couloirs.
Est-ce que c'était à l'image du rythme de travail
Sans doute, oui. Puisqu'en fait, il s'occupait aussi à une époque de la bibliothèque. Et donc, pour pouvoir travailler, écrire et faire ses propres recherches, lorsque quelqu'un venait lui demander un livre, il disait « Ah, le livre est à la reliure. Ah, le livre est défraîchi. Ah, nous ne l'avons plus. » Enfin, pour être tranquille. Et en fait, la plupart du temps, il s'arrangeait pour ne pas fournir les livres qu'on lui demandait.
Il perdait rarement son sens de l'humour.
Il avait un sens de l'humour. Je raconte dans le livre 50 anecdotes à ce sujet-là. Par exemple, il est un aide de camp. Tous les deux participent à une soirée mondaine. Ils vont se coucher et il demande à son aide de camp « Tenez, téléphonez à Madame Intel pour la remercier vraiment de cette soirée extraordinaire. » Il est 2h du matin. L'aide de camp téléphone. Et évidemment, le nom qui était fourni par Pierre Benoît, c'est un nom qu'il a trouvé dans la numéro téléphonique, pris au hasard. Et donc l'aide de camp téléphone à quelqu'un qui a évidemment pas organisé la soirée en question. Et il se fait recevoir, il se fait incendier en disant « Mais cher monsieur, vous avez vu, il est 2h du matin, foutez-moi la paix, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il raccroche et Pierre Benoît est très content d'avoir fait ce genre de blague. Une autre anecdote qui est la suivante. Ça se passe pendant la guerre, au moment où la ligne de démarcation a été établie. Pierre Benoît envoie un télégramme à Robert Espénard, lui demandant de descendre absolument là où il est. Il a un besoin impérieux de le voir. Donc vous imaginez la ligne de démarcation, les voies ferrées, c'est compliqué, les laissez-passer. Enfin bon, l'éditeur arrive enfin, après plusieurs jours de compliqués. Et Pierre Benoît lui dit « Ah, mais cher ami, j'avais besoin d'un partenaire pour jouer à la belote. » Et c'est tout. C'est-à-dire, c'était la blague du moment de Pierre Benoît. C'est-à-dire que l'éditeur a traversé toute la France.
Est-ce que c'est une blague
C'est les blagues de Pierre Benoît, voilà.
Bon, en tout cas, il fait parler de lui à l'Académie, où il est élu en 1931, le 11 juin précisément, par 18 voix au second tour, au siège vacant par la mort de Georges Portoriche. Alors, je lis un petit extrait de votre livre. Pierre Benoît n'est décidément pas un académicien comme les autres. La remise de l'épée s'avère une surprenante célébration qui transforme le temps d'un week-end une paisible bourgade en un lieu de rassemblement de tout le Gotha de la littérature. Écrivain en knickerbocker, dame en toilette, les unes en robe d'été et les autres en fourrure, le maître de cérémonie qui a tout pris en main, c'est Anatole de Monzy. Il s'est occupé de la souscription, de contacter Raymond Sub, originaire du Quercy, pour qu'il forge l'épée, d'adresser les lettres aux invités choisis par Pierre Benoît, de contacter les journaux de Paris et ceux qui couvrent le Quercy afin qu'ils rendent compte de l'événement. Il téléphone même à Marie Dubas, en vain pour avoir de vos nouvelles, pensant que votre absence devait être fonction de la sienne, quand il désespère de le trouver et se demande s'il va venir à cette fête. D'autres lettres inquiètes de Monzy permettent de retrouver la trace de Pierre Benoît. Marie Dubas pense qu'il est dans les Vosges, réfugié chez Paul Morand. Il est bien dans les Vosges, mais avec une autre femme, André Spinelli. Enfin, beaucoup d'anecdotes sur l'Académie. Et voudriez-vous nous dire un mot sur
cette période ? C'est absolument savoureux. C'est-à-dire qu'il se fait élire assez facilement. Il a des appuis. Il est jeune, il a 45 ans. C'est jeune pour être élu à l'Académie française. Vous savez qu'il y a toujours je ne sais pas, à Canal Académique, je vais expliquer ça. Il y a toujours un temps entre le moment où on est élu, le moment où on prononce ce discours. Durant cette période, Pierre Benoît se dit, au fond, je vais faire une fête à Saint-Céret. Vous avez cité un extrait du livre. Il invite 900 personnes à cette fête. Alors, il y a les gens du coin, mais il y a tous ses copains. Ils viennent tous de Paris, en train, en grosse voiture de l'époque, vous voyez. Et on est en 31, donc voilà. Pendant 2 à 3 jours, c'est une sorte de nouba infernale dans le village. C'est-à-dire que Carco hurle des poèmes à 1h du matin dans les rues du village, Macorland joue de l'accordéon, enfin voilà. Et alors, il y a un énorme banquet avec 12 discours, avec une remise de l'épée. Et alors, l'apothéose, imaginez la scène, l'apothéose. Il y a la Miss Kersey, qui est une jeune femme charmante, qui arrive, c'est la fin du banquet. Elle est entièrement nue, elle se met sur la table, et Pierre Benoît et le ministre des Beaux-Arts de l'époque prennent chacun une bouteille de champagne et aspergent Miss Kersey avec du champagne.
C'est très élégant.
Non, mais ce qui est étonnant, c'est que la presse de l'époque n'a pas du tout rendu compte de cet événement. Imaginez la même chose aujourd'hui.
C'est complètement fou.
On prend un académicien qui vient d'être élu, on prend le ministre de la Culture, ils partent à Saint-Céret, ils prennent Miss Saint-Céret d'aujourd'hui, une bouteille de champagne, voilà. Ça fait un scandale énorme, vous imaginez. Alors, personne ne s'en émeut, sauf quand même le secrétaire perpétuel de l'époque, au fond, qui va embêter Pierre Benoît. C'est-à-dire que son discours, il le fera plus d'un an après l'élection. C'est une façon de marquer sa désapprobation. Il jouera par la suite un rôle fondamental à l'Académie française, Pierre Benoît. Alors, il y a deux facettes. Hein. C'est-à-dire, il y a la facette défense de la langue française, du génie de la langue française. Ça, c'est très important de le rappeler. Il était très, très actif là. Et puis, l'autre aspect, c'est les tractations, les manœuvres. C'était quelqu'un de absolument central. C'est-à-dire, on a pour habitude de dire, au fond, qu'entre le moment de son élection et sa mort, aucune élection à l'Académie française ne se faisait sans...
Son aval.
Sans l'aval. Enfin, c'est-à-dire, il faut dire que les réseaux, les amitiés, les clivages politiques enfin, étaient très, très importants. Hein. C'est-à-dire, il y a vraiment des clans. Il y a tout le passage, évidemment, jusqu'à la guerre et après la guerre. Il y a vraiment des clans qui se sont opposés, hein, qui s'opposaient très férocement. Donc, quand il est élu, par exemple, En 1931, j'ai vu le dossier de presse, que j'ai eu accès aux archives. C'était très émouvant d'ailleurs de voir ces archives dans des cartons, dans des vieilles valises qui avaient été oubliées dans des greniers. Et je n'ai pas pu m'empêcher, en travaillant sur le livre, de me dire au fond, la vie de cet homme extraordinaire, très reconnu, finalement, ça tient à quoi ? Il y a une quarantaine de cartons, avec quelques lettres, quelques vieux papiers, quelques projets de livres, quelques photos. Hein. C'est assez étrange de voir le décalage qu'il y a entre ses archives et puis la vie de cet homme.
Donc il y avait deux aspects de sa personnalité. Il jouait un rôle, il était clé dans le rôle de l'Académie française, notamment pour les élections. Il était le personnage central.
Oui, c'est ça, voilà. Les élections ne se faisaient pas sans son aval, en fait. C'est ça. Et il y a la fameuse anecdote liée à la non-élection de Paul Morand, puisque Paul Morand étant son ami, Paul Morand, au fond... Le général de Gaulle explique que si Paul Morand est élu, il ne va pas le recevoir. Donc, l'élection n'a pas lieu et Paul Morand n'est pas élu. Il le sera plus tard, en 68, comme vous le savez. Mais lors de cette élection de 58-59, parce qu'elle est double, en fait, il y a un désaccord entre, pour schématiser, la gauche et la droite. L'élection ne se fait pas. Et Pierre Benoît, pour qui l'amitié est essentielle, démissionne. Alors, vous savez bien, vous allez me dire, on ne peut pas démissionner.
Impossible.
Impossible. Mais, alors, il y a deux versions. Certains disent... Il n'est plus jamais revenu à l'Académie française. D'autres disent, non, on a des preuves, des feuilles de présence, des choses, en fait, il est revenu de temps en temps. Mais toujours est-il que, symboliquement, il a dit, voilà, je ne reviens plus à l'Académie française.
Parlons de l'œuvre un peu plus. Pourriez-vous nous dire quels sont les livres que vous conseilleriez et quel est le livre que vous préférez de Pierre Benoît ?
En parlant comme ça autour de moi, à l'occasion de la réimpression des livres, de l'édition de cette biographie, alors je m'aperçois...
Est-ce que vous avez tout relu ?
Ah oui, ben bien sûr, mais ça c'est indispensable déjà. Quand on écrit une biographie, on ne se contente pas de relire les œuvres quand on fait la biographie d'un écrivain. Il faut aussi relire des choses pour contextualiser l'ensemble. Par exemple, si je parle du lien qui existe entre Barrès et Maurras dans les années 20, avec Pierre Benoît, évidemment que je relis une partie de Maurras qui était publiée à l'époque, une partie de l'œuvre de Barrès, des biographies, pour voir au fond ce qu'il faisait à l'époque, où il se situait politiquement, intellectuellement, etc. Donc il y a toujours un gros travail de relecture nécessaire, sinon on raconte n'importe quoi. Quand vous parlez de la situation du mandat français en Syrie, au Liban, dans les années 20, avec la présence du général Végan, c'est évident qu'il faut aller voir ce qui se passait réellement, sinon vous ne comprenez rien à la situation. Donc, il y a toujours un gros, gros travail de lecture, et évidemment, donc, doublé d'une relecture de l'œuvre de Pierre Benoît. Alors, moi, je me suis aperçu que chacun avait son Pierre Benoît. En parlant autour de moi, chacun me disait « Ah, mais moi, c'est tel livre de Pierre Benoît ». L'autre disait « Non, non, pas du tout, c'était l'autre. Ah, et moi, c'est celui-là ». Donc, chacun a le sien, en quelque sorte. Alors, le mien, il y a quelques livres. Il y a un recueil d'articles qui s'appelle « Tout autour de la Terre », qui rassemble, qui est encore disponible d'ailleurs, édité chez Albin Michel, qui rassemble ses écrits de journalistes. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il est dégagé des obligations du roman, donc de raconter une histoire. Il est très libre, il raconte ses voyages, il donne son avis sur l'Éthiopie, juste avant l'intervention italienne, sur la Turquie, avec les troupes de Kemal Atatürk, sur le Liban, sur Madagascar, sur les aborigènes. Donc tout ça est très passionnant. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est ses livres, disons, plus romanesques. Axel, Mademoiselle de la Ferté, La Châtelaine du Liban. Il y a toujours un fond historique très important et un fond psychologique. Et puis des livres plus politiques. On a parlé du livre écrit à Jérusalem, enfin autour de Jérusalem et de la Palestine, c'est-à-dire Le Puy de Jacob. Pour moi, c'est un des plus grands livres de Pierre Benoît, Le Puy de Jacob. Il y a un livre qu'on n'a pas réédité, je le regrette, qui s'appelle L'île verte, et qui est un livre très poétique. Il y a aussi une veine, il ne faut pas oublier qu'on n'en a pas du tout parlé jusqu'à maintenant de ça. Pierre Benoît a commencé dans l'écriture par des poèmes. Alors c'est des poèmes tout à fait, comment dire, il a un pied en 19e siècle, hein, mais c'est un beau classicisme, c'est-à-dire c'est des œuvres dégagées un peu de la poussière du 19e. Il les écrit entre 1900 et 1920. Alors c'est contemporain d'autres mouvements littéraires, hein, d'ailleurs, donc ça peut rester. On sent que c'est très classique pour l'époque, mais c'est une belle langue et on comprend aussi qu'au fond, quand il écrit des romans, par la suite, son œuvre romanesque contiendra des parties poétiques. Sa vision du monde, c'est une vision poétique. Et ça, c'est très important. Si on n'a pas cette idée en tête, on ne comprend pas tout à fait Pierre Benoît. Et l'aboutissement, à mon sens, de cette vision poétique, c'est l'île verte, avec cette île, ces oiseaux. C'est quelque chose de très... c'est lié au temps, à l'éphémère, enfin, une certaine poésie comme ça. Les brumes matinales, enfin, l'eau, les bateaux, les, voilà. Sorte d'incertitude dans les sentiments aussi, voilà. Donc il y a tout cet aspect qui est essentiel. Mais là encore, je reviens à l'idée que j'ai mise tout à l'heure, à savoir que chacun peut avoir son Pierre Benoît. Vous pouvez me dire, mais moi j'ai lu Les Chaussettes Géants qui parlent de l'Irlande et des Sinn Féiners, et c'est passionnant. Ah ben, c'est vrai. Vous pouvez lire l'Atlantide, vous préférez l'Atlantide, c'est-à-dire ce grand récit dans le Hogard. Vous pouvez préférer Königsmark. L'Allemagne, la France, la guerre de 14, etc. Voilà.
Chacun ses goûts et nous relirons Pierre Benoît grâce à vous, Gérard de Cortance, et grâce à cette biographie intitulée Pierre Benoît, le romancier paradoxal, paru chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Pierre Benoît et je vous dis à très bientôt.